les rendez-vous de l'auditorium du Mémorial de la Shoah. Une série de conférences, témoignages, rencontres dédiées à la Shoah et aux autres génocides du XXe siècle. Témoignage de Shlomo Selinger, en entretien avec l'écrivaine Laurence Daubécourt. Dans le cadre du grand cycle de témoignages avec les rescapés des camps nazis débuté le 26 janvier 2020.
Aujourd'hui, nous accueillons Shlomo Selinger, merci infiniment, et Laurence Daubécourt. Donc, je vais faire une très rapide présentation de Shlomo, qui est natif de Pologne, parce que la ville, je suis désolée Shlomo, mais Krakowa, voilà. Vous voyez donc le jour en 1928, vous recevez une éducation religieuse, traditionnelle, tout en allant à l'école publique. En 1942, vous êtes déporté avec votre père au ghetto de Schwanau. Au camp de Fulbrook en Allemagne, où votre père est assassiné. Vous êtes ensuite déporté dans 9 camps successifs, dont Gross-Rosen, Flossenbürg, ensuite deux marches de la mort, et vous êtes libéré en 1945 à Térésine. Par l'armée soviétique, vous êtes enfin trouvé sur un tas de cadavres par un médecin. Après la guerre, vous devenez sculpteur. Vous êtes quand même un monument de la sculpture, dans tous les sens du terme, parce qu'elles sont monumentales, mais aussi parce que vous êtes reconnu internationalement. Et Ruti, votre femme, fait partie intégrante de cette création et elle vous accompagne depuis. Voilà, vos œuvres sont exposées à Drancy, La Courneuve, Luxembourg, Yad Vashem et évidemment bien d'autres. Mais voilà. Alors, non, il y a quelque chose quand même qu'il faudrait expliquer avant que je présente Laurence, c'est votre présence ici, puisque oui, bien sûr. Non, mais je m'en doute. Mais je vais juste l'introduire, on va dire, parce qu'en fait, dans la préparation de qui vous la question de qui vous accompagnerait, Shlomo a été finalement très évidente. Autant pour d'autres témoins, nous avons pas mal travaillé en fait à la recherche et la mise en relation. Autant pour vous, ça s'est pas posé du tout. C'était une évidence. Qui m'a été soufflé quand même par votre entremetteur, on va dire, qui vous a proposé de vous retrouver pour rédiger un livre qui n'est pas encore sorti, mais qui sortira très bientôt puisqu'il est prévu pour janvier, qui s'appelle « Nuit et lumière, des marches de la mort au chemin de la vie ». Et ce témoignage sortira chez Albin Michel. Voilà. Donc, Laurence. Donc, vous êtes une femme de lettres, de mots, de ceux que l'on porte sur le papier, irréversible, mais aussi de ceux que l'on porte avec la voix pour se dire. Vous êtes née à Paris, dans un environnement bourgeois, et suivez une scolarité chez les Ursulines. Très tôt, pour échapper à l'isolement dans cette famille nombreuse, mais qui ne parle pas vraiment, vous vous réfugiez dans la solitude choisie et l'imaginaire. Il paraît un bon bouillon de culture pour l'écriture. En effet, La démangeaison, votre premier livre, sort en 1994, tiré de l'expérience personnelle du supplice de l'eczéma qui vous fait souffrir depuis que vous êtes toute petite. Femme de lettres, lettre des mots du corps, M-A-U-X. Le corps est bien présent donc dans ce livre, ainsi que dans L'écarissage, publié dans Les Incorruptibles en 1997, hein, qui est un essai sur la conscience physique de la mort. Le corps est présent aussi dans La conversation, qui vous apporte le succès en 1998, bientôt suivi par Orsita, un livre à voix multiple où Hortense part à la recherche de la vérité sur le passé de son père durant la Seconde Guerre mondiale. Puis Substance en 2001, Nous en 2002, et 2002 aussi, date importante, qui vous verra quitter Paris et la vie que vous y menez pour la Villa Médicis, où vous serez pensionnaire pendant un an. Il naîtra la vie en nous, la vie des morts, et qu'on qualifie de livre radicalement différent des précédents. Il est question de l'être aussi, essentiel de soi, de l'identité, quand vous décidez de vous réapproprier votre prénom d'origine, Laurence, que vous racontez dans le livre intitulé « Laurette ». Je vous cite. « Depuis, je n'écris plus pour survivre, mais pour transmettre. J'ai observé avec quelle puissance l'écriture sauve et guérit. Désormais, je la transmets aux autres à travers mes livres et les ateliers que j'ai créés. » En effet, atelier que vous avez mis en place il y a à peu près 8 ans dans la Drôme où vous êtes installé en 2007. Vous dites, l'écriture, c'est ma façon d'être au monde, mais il est important que chacun trouve sa place, trouve l'endroit où la vie devient fluide, parce que quand c'est juste, tout s'ajuste. Tout le monde n'a pas fonction à être écrivain, mais l'écriture peut être un outil de connaissance de soi pour tous. C'est votre façon d'être au monde, c'est aussi ce qui vous a permis d'y être tout court, elle vous a sauvé, vous l'avez dit. L'écriture pour vous, Laurence, la sculpture pour vous, Shlomo, la création artistique pour être au monde, être simplement, survivre, puis vivre. Donc là, je me permets de mettre quelques lignes de Nuit et Lumière. Et c'est Shlomo qui parle. Je sculpte obstinément parce que je cherche la lumière originelle, qui est peut-être un autre nom pour dire la liberté. La liberté est dans l'acte. Je suis libre en creusant le tunnel, ni avant, ni après. Voilà. Je pense que ça introduit bien la discussion que vous allez avoir. Je vous souhaite une très belle rencontre à tous.
Merci beaucoup. Bonjour. Je suis très heureuse d'être là avec Shlomo. Cette rencontre, nous la devons à Jean Moutapa des éditions Albin Michel, que je remercie vraiment. Parce que c'est lui qui m'a proposé, m'a envoyé des documents sur Shlomo, et il m'a proposé d'écrire ce livre. Et donc moi, je me suis dit que j'allais dire non, parce que j'avais beaucoup accompagné de monde dans l'écriture. Écrire à la première personne une telle expérience me paraissait impossible. Et donc, j'ai regardé un peu les documents pour savoir comment j'allais argumenter pour lui dire mon refus. Et puis, j'ai regardé un peu. Et en fait, très vite, ça a été évident que j'allais dire complètement oui, plus que ça. Parce que je lisais et en fait, j'étais extrêmement émue. Et je me disais, mais... En parlant de Shlomo, que je ne connaissais pas, je me disais, mais il est fou, il est fou. Il dit, je crois en l'homme, il est fou. Il ose de l'amour, il ose la tendresse, il parle de ça. Et donc, c'était très vite évident que qu'est-ce que je pouvais... Si je pouvais faire quoi que ce soit pour me mettre au service de ça, voilà, oui, j'étais d'accord. Et je crois que j'ai vraiment compris, justement, ce jour-là, en regardant tout ça, à quel point la grande nuit et la petite nuit étaient liées, si je puis dire. C'est-à-dire que moi, j'avais traversé mes petites nuits, et je vivais à ce moment-là une succession très difficile, et... à la suite de la mort de ma mère, et je me suis dit, ah oui, en fait, il me donne le son pour mes nuits à moi, c'est-à-dire que la façon dont il continue d'avoir foi en l'homme, dont il ose l'amour, et dans l'amour qui est le tien aussi par rapport à l'art, qui est une manifestation finalement de l'amour, il m'enseigne, et il m'aide à me tenir droite, et la foi qui a toujours été la mienne en l'écriture et en l'homme, d'une certaine manière, que je jugeais peut-être parfois naïve de ma part, et je rencontre cette foi en l'homme de Shlomo, et je reconnais soudain quelque chose de ma foi, et je me dis, mais enfin, soudain je sais d'où, comment dire, comme si je savais soudain d'où je viens et où je vais. D'une idée de l'humain qui est que c'est au-delà du fait d'être un petit homme. Être humain, c'est autre chose. Et c'est ce que Shlomo me dit. Et je dis, alors oui, je veux... combien je veux servir cela. Et on s'est rencontrés il y a un an. Finalement, on ne s'est pas dit énormément de choses ce premier jour. J'ai beaucoup aimé, on est sorti du restaurant et Shlomo s'est planté devant moi et à l'arrêt de bus et il m'a dit Vous êtes mariée ? Je dis oui. Vous avez des enfants ? Oui. Et c'est comme si c'était OK. Comme si j'ai énormément aimé parce que il y avait la vie, en fait. Voilà. Et cette reconnaissance de la vie. Et après, on s'est rencontrés. Il y a eu donc tout le Covid, tout ça. On s'est vus par. Du coup, on devait se voir. Physiquement, on s'est vu par internet avec Ruti aussi, et on s'est, je sais pas comment dire ça. Donc, il m'a fait confiance, donc merci à Jean aussi Moutapa de m'avoir fait confiance. Et j'ai dit ok, je vais essayer de dire ça dans ma langue. Voilà. Et du coup, j'ai envoyé quelques chapitres. Voilà, et c'était OK. Et en fait, je vais saisir ce moment parce qu'on ne s'est jamais trop rien dit avec Shlomo au sens d'être à être. J'ai écouté, j'ai posé des questions, il m'a répondu. Mais pour moi, j'ai la sensation qu'il y a eu une reconnaissance très profonde qui n'était pas de l'ordre presque du langage, mais du rapport, une reconnaissance du rapport à notre pratique, si je puis dire, toi qui es la sculpture, moi l'écriture, et qui a été vraiment pour moi énorme, enfin voilà, très profonde. Et je le dis, c'est un point que je dis aussi là. Qui n'est pas anecdotique, je suis la fille d'un homme qui était antisémite, qui était né en 19, qui est mort aujourd'hui. Et j'ai grandi avec, dans son bureau, le couteau des jeunesses hitlériennes. Je sais ce que c'était, ce que ça m'a coûté d'être la fille de cet homme-là. Et donc ça a une valeur symbolique extrêmement forte pour moi d'être là aujourd'hui avec vous et... voilà, donc merci à Jean. Je trouve que on peut avoir foi, voilà, parce que on peut transmettre autre chose que ce que l'on a reçu. Et voilà. est-ce que tu veux dire quelque chose ou pas maintenant ou on...
J'ai rencontré Laurence au restaurant. Elle est venue des bureaux de Rami, mon fils, avec plusieurs livres dans lesquels elle s'est documentée sur moi, sur mon passé. Et puis, elle a exprimé au dernier moment, c'était déjà assez tard, qu'elle voulait quand même voir mon atelier. Et on est passé d'abord l'atelier de 8. Et on n'est pas monté là-haut parce que c'est... Je voulais lui montrer aussi l'atelier de 12 où mes sculptures sont emmagasinées. C'était mon premier atelier où mes sculptures m'ont mis dehors puisqu'il n'y avait plus de place. Donc j'ai eu l'opportunité d'être juste avant... de réalisation des mémorials des déportés à Drancy, quand je gagnais les concours, et je ne savais pas où je pourrais les faire, réaliser. Et j'ai commencé à les travailler dans la carrière, à Perros-Guirec, à La Clarté, et en l'amenant dans cet endroit. Avec beaucoup de problèmes, mais je l'ai travaillé pendant 2 ans au 16 rue Letellier.
J'ai vu tes sculptures.
Oui, et je l'ai amené au 16 rue Letellier, où il y avait mon premier atelier, où la lumière est beaucoup meilleure. Et elle m'a dit, C'est très important que j'ai vu ça. Bon. Et j'ai senti qu'elle pourra faire un très bon livre et je ne me suis pas trompé.
Merci.
Merci.
Alors, on va revenir un peu sur ton enfance. D'abord, il y a ta mère. J'aimerais qu'on pose un peu les personnages de ton enfance. Il y a ta mère et j'ai été frappée à quel point l'amour de ta mère est quelque chose comme on sent à quel point ça a été fort et comme quelque chose qui t'a porté et soutenu. Elle-même qui avait hérité aussi de l'amour de la sienne. Tu en dirais quelque chose de cette présence-là?
J'avais une grande, un trésor pendant tout mon séjour dans les camps de concentration et même avant, à commencer par les ghettos et encore avant, quand j'ai assisté à une pendaison de mon moniteur de jeunesse.
Sioniste.
Oui. Et j'avais un trésor, c'est l'amour de mes parents. Et je crois que ça me portait tout le temps, toutes mes humiliations, tous mes coups que j'ai reçus, toutes les tortures et toutes les malheurs miennes. Et j'avais un trésor, c'est l'amour de mes parents. Et avec eux, je savais ça. Pas me les prendre. Tout, ils me prenaient tout, ils venaient prendre ma vie, mais pas l'amour de mes parents. C'est ma force, c'est une condition de ma vie jusqu'à aujourd'hui.
Oui, tu le dis combien c'est toujours important pour toi aujourd'hui encore cet amour-là. Alors il y a elle avec donc la branche maternelle. Dont on a la sensation qu'elle est plus, comment dire, plus tendre, je dirais, que la branche des Selinger. Selinger ou Selinger ? Selinger. Et parce que tu as deux sœurs aussi, tu as ta petite sœur, Ushia et Sarah. Peut-être tu peux dire quelque chose sur Ushia ? Qui est un chapitre du livre et dont tu as parlé très vite quand on s'est... Enfin, voilà, c'était Ushia, ça a été quelque chose...
Ushia était... Elle était née à la maison. Comme à l'époque, on accouchait à la maison. Cette nuit-là, et mon père dormait avec moi dans mon lit. Et c'était drôle. Je disais à mon père qu'une poule m'empêche de dormir. Et c'était la plaire de ma petite sœur. et ensuite, c'était une fille, un enfant d'une beauté exceptionnelle. J'avais des cheveux blonds, et des yeux pas bleus, presque violets, quelque chose de spécial. Et ma petite sœur, elle pouvait être vivante. Ma mère voulait lui donner, quand elle s'est échappée de partout, elle voulait la confier à quelqu'un. Et qui était un fauteuil, qui voulait le prendre.
Qui était d'accord pour l'adopter.
Pour l'adopter. Et Rouja s'est accrochée à ma mère, elle ne voulait pas la lâcher, puisque déjà mon père et moi, on était dans la concentration, et ma sœur aussi, elle était, ma grande sœur, Sarah, était déjà. Donc, elle est partie, je l'ai su exactement, et après la guerre, qu'elle est partie de Benjin. À la liquidation des ghettos de Berlin. Ma mère qui chaque fois avant liquidation d'un ghetto, elle s'est sauvée d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre, à la fin. L'assassinat des générales de juifs l'a pris aussi. Elle était, j'ai un témoignage, quelqu'un qui me racontait qu'elle était sélectionnée avec ceux qui allaient être assassinés aussitôt dans les chambres à gaz à Auschwitz.
À Auschwitz, ta mère donc, et ta petite sœur.
Et ma sœur, voilà.
Et ton autre sœur, elle s'en est sortie.
Elle, ma grande sœur, elle était dans un camp. Pas loin de, c'était en Tchécoslovaquie. Elle travaillait. Elle est restée dans ce camp, de départ jusqu'à la fin.
Le même.
Oui. Ce camp aussi, à la fin, elle était attachée à des commandos de Grosse Rosen, comme les camps suivants, Fifteichen, Grosse Rosen, Flossenburg, où je subis. Bon. Merci.
Et puis, il y a ton père aussi.
Et mon père. Mon père, j'étais avec lui.
Mais avant, en fait, tu dis que finalement, il était assez austère, mon assez père, sévère. Tu étais le seul fils.
Moi, j'étais le désespoir de mon frère. Car dans l'école juive, j'étais un mauvais élève. Parce que à la maison, nous parlions polonais. Mais à l'école juive, on lisait l'hébreu. Et on les traduisait en yiddish. Et donc, je n'ai pas connu ni l'hébreu ni l'yiddish. Et chaque samedi, mon père m'examinait qu'est-ce que j'ai appris. Et j'ai appris pas grand-chose.
Et tu n'avais qu'une envie, c'est de...
Et dès que j'ai pu m'échapper après le déjeuner de samedi, je le faisais. Bon, une fois dans le camp, je me suis rendu compte de mon père, ce qu'il était, parce que... Dans les mêmes blocs que nous étions, il y avait des pères et des fils qui se disputaient les morceaux de pain. Un voulait plus grand et le fils voulait plus grand. Tandis que mon père, il voulait que je reçoive le morceau le plus grand. Donc, la réaction, je voudrais donc c'est mon père qui vient. Et puis toute son conduite était d'une dignité exceptionnelle. Donc j'ai connu mon père trois mois. Je me suis rendu compte, j'ai eu la leçon de la vie et peut-être Et le conduite envers des autres. Et je sais que mon père, même dans cet endroit où on a tout fait pour que notre humanité disparaisse. Et malheureusement, avec grande efficacité. Mais ici et là, il y avait des gens qui étaient restés des hommes jusqu'à la fin. Mm. Et mon père était parmi eux. Mm. Donc, si je crois à l'homme, c'est que je sais que l'homme est possible par la conduite de certains. Ginette, toi peut-être aussi te laisser.
Il y a les lieux aussi, donc il y a ta mère, ton père, tes sœurs. Il y a les lieux, vous êtes une famille, donc c'est à Chakova, comment ? Chakova, oui, c'est pas facile à prononcer. C'est l'endroit où vous vivez. Et une ville où tu dis donc qui n'était pas très loin d'Auschwitz, une ville de garnison où tu parles donc il y avait vous alliez au bain le vendredi, il y a les repas le vendredi soir avec ta mère qui préparait un festin chaud, vous accueillez aussi des gens qui pouvaient être de passage.
Oui, souvent. Oui. Il y avait même des gens qui, à la synagogue qui étaient là, qui n'étaient pas, étaient toujours invités pour dîner. Et puis aussi parmi les, pendant la fête, il y avait toujours des soldats qui étaient en garnison dans l'armée polonaise. Et était en permission et puis était répartagé dans les maisons juives pour le repas des fêtes. Mm. Et chez nous, il y avait toujours des gens en plus qui la famille pour le samedi et pour vendredi soir.
L'accueil, en fait. Et tu parles aussi, d'ailleurs, c'est très beau comme tu parles de ta mère qui... Tu as un souvenir d'un homme qui venait, qui était extrêmement fragile.
Mais pas seulement le samedi, je sais que
voilà.
Ma mère, il y avait toujours...
Elle prenait soin.
Un homme bien habillé, probablement, et qui venait à la maison. Il tremblait, c'était peut-être il avait un Parkinson. Et ma mère était là, assise à côté, et avec une cuillère, et le nourrissait, comme ça, plusieurs fois dans la semaine.
C'est très... tu en parles comme... on sent à quel point il y a quelque chose qui est transmis là, et d'elle... ta mère et de lui, ton père, dans des façons très différentes, mais où on sent que ce sont deux êtres, c'est vertical, quoi. Ça, oui,
parce
ça, ça tient la route.
Parce que mon père, pendant jusque là, j'ai pas tellement connu. Il était, tout le matin, il allait et il prenait les trains. Pour Katowice, et à Katowice, il y avait son magasin, son entreprise. Et
tu le voyais très peu.
Il venait le soir, souvent, je ne l'ai même pas vu le soir, parce qu'on dormait déjà. Mm. Et donc, je fais sa connaissance réellement, là, au camp, là où. Où il n'y avait pas de place pour les êtres humains, j'ai trouvé un homme. J'ai trouvé un homme.
Et il y a un autre lieu qui est... je ne sais pas non plus, ça se prononce Michaud, non. Comment Mirkov. Ah ouais. J'y suis pas.
Mirkov, ouais.
Qui est l'endroit de la... disons, on va dire, c'est plutôt le fief de la famille maternelle, où vous alliez aussi l'été, où il y a, comme ça, c'est comme, quand tu en parles, c'est comme une galerie de... Enfin, il y a plein de personnages extrêmement hauts en couleur, avec les tantes, les... etc. Le millionnaire, celui qu'on appelait le millionnaire. Cette famille-là, voilà, qui était...
Ils n'étaient pas à Bierhoff. C'était la tante...
Oui, oui.
Qui était mariée avec...
Oui, oui, eux, ils n'étaient pas directement là, mais c'est cette famille-là.
Avec un homme industriel des Lodges, mon grand-père maternel, il a décédé puisque ma mère était
jeune,
l'aînée, elle était en train d'étudier les dentaires,
oui, c'est ça,
à Varsovie. Elle a tout quitté et elle a repris le magasin. Elle est devenue le chef de famille.
Parce qu'il y avait, elle avait frères et sœurs.
Oui, ah bon. Et voilà.
Et
donc là, on, souvent après avoir passé des vacances dans les montagnes, on allait souvent chez ma grand-mère qui était à Bierhoff. C'est un endroit où très très l'agriculture était.
Et c'est là que...
C'est là que la guerre...
Vous êtes là quand, en fait, ça, c'est...
Nous sommes arrivés avant que les Allemands envoyaient la Pologne. On sait parce que Strakowa, Jaworzno et puis Katowice, ils étaient tout proches des frontières allemandes. Et quand les Allemands envoyaient la Pologne,
vous étiez là.
Nous étions là. Et moi, personnellement, j'étais dans une maison dans la campagne à côté. Dans la maison de l'ouvrier qui travaillait chez mon oncle. Et c'est là que j'ai vu une patrouille allemande qui passait. Et je ne me suis pas... Je pensais que ce sont de l'armée polonaise, mais leur couleur de leur habit était tout à fait...
Différent.
Tout à fait différent. Ouais. Pas tout à fait, un peu différent.
Et c'est là, en fait, où tu racontes que vous fêtez Rosh Hashanah et justement les Allemands arrivent, débarquent.
Déjà, les Allemands étaient déjà là et la synagogue était transformée en écurie ou quelque chose comme ça. Et les Juifs se partageaient des appartements entre eux pour faire la prière de Rosh Hashanah. Et en pleine prière, où j'étais avec mon père, et les Allemands sont entrés, probablement guidés par les Polonais, puisqu'ils nous ont sortis tous, et ils ont donné aux hommes qui étaient là, des balais, et ils devaient balayer les marchés. Donc mon père, après qu'il ait blindé allemands qui sont allés vers Varsovie. Et puis une partie, j'ai su qu'on leur a donné une pelle, et ils allaient hors de la ville et ils creusaient leur tombe, et on les assassinait tout de suite. Et encore avant le programme l'élimination de tous les juifs qui étaient faits avancer.
Et après, vous avez été à un moment donné dans le ghetto de Chakova.
On était encore avant le ghetto.
Ouais. Et après, vous avez été dans le ghetto.
Dans le ghetto. Pasternak, c'était cinq maisons où des centaines de juifs de Chakova qui se sont qui ont quitté leur maison, et puis aussi des juifs de l'environnement. C'était épouvantable, mais ça ne dirait pas trop quelques mois, parce qu'ensuite il y avait la liquidation des ghettos de Chakova. Et mon père, ma mère, on est quand même pu arriver à Chanov, là aussi, quelques mois, et ensuite, liquidation des ghettos de Chanov. Évidemment, puisqu'on était tout près d'Auschwitz, la sélection s'est passée sur place. Une petite partie des gens qui ont été séparés des autres qui dans les programmes, ils allaient directement à Auschwitz dans les chambres à gaz, et une partie qui allait dans les programmes allemands, Vernichtung durch die Arbeit, et extermination par le travail dans les camps de concentration en Allemagne. Donc, moi, j'ai été sélectionné parmi ceux qui devaient aller à Auschwitz directement. Et au certain moment, je me suis approché du cordon des policiers allemands qui nous séparaient des autres. Et un policier juif du ghetto qui s'appelait Kuba Schoenberg, qui commençait à crier: mais qu'est-ce que tu fous là? Tu as 17 ans. Et j'avais 14. Et il m'a poussé. Les policiers allemands n'avaient pas le temps d'intervenir, et j'étais déjà de l'autre côté. Et donc, avec mon père, ma mère et ma petite sœur, on a pu encore se sauver. Et je suis qui était à Sosnowiec, et puis après à
Benzin.
Au Benzin, voilà. Et c'est là qu'ils étaient amenés à Auschwitz et assassinés là-bas.
Alors, on va... passer des... On va voir des dessins. Je vais lire quelques extraits on a fait une sorte de montage un petit peu pour à la fois... que vous puissiez voir les dessins de Shlomo et entendre un peu ce qu'on a échangé. Je m'excuse pour la prononciation des mots polonais. Nous étions dans le ghetto de Chanów depuis quelques mois. Après avoir quitté celui de Chakova, au moment où, avec mon père, nous avons été arrêtés, je lisais Quo Vadis, ce célèbre roman de Henryk Sienkiewicz, lorsque les SS sont entrés. Quo Vadis, où vas-tu en latin? Je vais vers l'enfer, et tout ce que j'en dirai, ce ne sera pas cela. Tout ce que j'en dis aujourd'hui, ce n'est pas l'odeur, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vermine qui nous dévore, ce n'est pas ce paysage en noir et blanc et en couleur, ce n'est pas la déchéance humaine, ce n'est pas la déshumanisation, ni ces débris d'humanité qui persistent comme la trace folle d'une lumière. Ce n'est pas l'insupportable beauté des nuits de Grossrosen, de Flossenbürg. Tout ce que j'en dis est impossible à dire, car un être humain ne peut pas se l'imaginer. Même le diable n'a aucune idée de cela. Certes, il y a les on-dit. Mais comment croire à ce que l'esprit ne peut pas même imaginer ? Il y a les odeurs. Mais comment se fier à une réalité que le corps ne peut oser admettre ? Ne s'agit-il pas de rumeurs engendrées par la confusion et la peur ? Avec mon père, nous avons été déportés ensemble au camp de Fallbrook, près de Breslau, en Allemagne. Là, mon innocence me sauve. Je suis un candide. Je ne comprends rien. Animal. Là où mon père a déjà perçu ce qui était en train d'avoir lieu. Les humiliations, l'inouï de l'univers concentrationnaire. Le désespoir moral l'a vaincu. Le génocide en marche. La vérité l'a franchi de face. Il s'est affaibli. A été transporté à l'hôpital du camp. Puis le mensonge s'est organisé autour de son départ. On a parlé d'un transfert dans un camp de convalescence, celui de Brand. Un camp de convalescence ? Qui pourrait le croire quand nous travaillons chaque jour à creuser les fondations des usines Krupp sur des chantiers aux conditions absurdes, entre manque de nourriture et traitements sadiques ? Qui pourrait le croire ? Lorsque réveillés un matin avant l'aube, nous sommes rassemblés dans un enclos par la houle impatiente et sombre de quelques capots frénétiques. L'obscurité épaisse nous enveloppe sous les arbres. Nous qui rassemblons nos mains autour de ce liquide tiède et clair qu'on appelle ici la soupe, nos doigts enveloppant cette promesse non tenue de chaleur qui nous laisse dévorer par la faim. Je sens avant de voir. Mon corps sent. L'air mort. L'atmosphère déformée par le mal, le frôlement d'un irréparable. À hauteur de nos visages, dans la lueur pâle, une forêt de jambes a poussé dans la nuit, partout, sur chaque arbre, dépendu. Les SS ont signé là une nouvelle mise en scène de leur théâtre macabre pour nous terroriser, nous rappeler que nous ne sommes que cela, des stucs, des riens, des morceaux de choses. Un camp de convalescence pour mon père. Qui pourrait y croire ? Depuis longtemps, mon enfance n'est plus. Elohim istirpana, Dieu a voilé sa face. Après quelques mois, alors qu'il s'affaiblissait, il a été transféré au camp de Brand, où on lui a enfoncé un tuyau dans la bouche. Ils ont ouvert le robinet jusqu'à le faire éclater, comme ça, de l'intérieur. Voilà. C'est ainsi que mon père, Abraham Selinger, a été assassiné en 1943. Non pas tué, assassiné. Ce n'est pas du tout la même chose. Maintenant, seul, je suis celui qui doit survivre. J'ai survécu au camp de Fallbrook. J'ai survécu au camp de Groditz. J'ai survécu au camp de Markstadt. J'ai survécu au camp de Fouftaichen et à la marche de la mort du camp de Fouftaichen vers celui de Grossrosen. J'ai survécu au camp de Grossrosen et au voyage dans les wagons à ciel ouvert vers le camp de Flossenbürg. J'ai survécu au camp de Flossenbürg. J'ai survécu au camp de Dresde et à la marche de la mort du camp de Dresde vers celui de Leitmeritz. J'ai survécu au camp de Leitmeritz et au camp de Theresienstadt. J'ai survécu. Je marche. De Leitmeritz jusqu'à Theresienstadt, je marche quelques kilomètres encore, jusque vers le dernier camp, le 9e. J'arrive à Theresienstadt, mais je n'ai plus de force. C'est fini. Survécu à tout, mais c'est fini. Les Allemands sont en train de perdre la guerre, et moi je perds la mienne, ma guerre. Je perds ma vie, c'est fini. Je m'en vais, je vais vers ma mort. Au bout de ma mémoire qui s'évanouit aussi. J'ai marché au-delà de mes forces, après la vie dans les ghettos, j'ai tenu 3 années dans les camps, et je ne sais plus. Je ne peux plus dire. Je commence là de ne plus me souvenir, de perdre connaissance de moi-même et de tout. Sur un tas de cadavres, ma vie s'en va. Je n'ai pas 17 ans, je suis nue. Sur un amoncellement de cadavres dans le charnier de Terezinstadt, en Tchécoslovaquie, je rejoins maintenant tous les autres, tous les morts, les millions de morts. Je meurs sans m'en apercevoir. Mais il y a cet officier soviétique qui passe. Encore passe-t-il, mais il me voit aussi, un officier juif, russe et médecin. Comment sait-il que je suis encore vivant ? Instinct, fraternité, hasard, comment sait-il ? Ainsi, il me sort du charnier et me fait admettre dans un hôpital militaire. Il prend ce risque-là, pour le civil juif que je suis, déporté ordinaire. Il s'acharne à me rendre la vie. Un mois pour revenir d'entre les morts. Un mois pour revenir à la vie. Mais quelle vie ! Je suis vivant et je suis mort. Je ne me souviens de rien. Je sais que j'ai été déporté, que ma famille a disparu, assassinée. Mais rien ne m'en reste, aucune image, rien. À 17 ans, ma mémoire est un chemin troué qui ne mène nulle part. Ce dont on ne se souvient pas est précisément ce que l'on ne peut oublier. Pendant 7 ans, au sortir des camps, j'ai tout oublié. J'ai oublié ma cousine Rosa, arrivée en train de Cracovie avec ses neveux, ses nièces et son grand-père. Oublié qu'une des petites pleurait et qu'un officier SS, ne pouvant le supporter, l'a jetée contre un pavé pour lui fracasser le crâne. Oublié son grand-père, venu à son secours, tué d'une balle dans la tête par l'officier. J'ai oublié l'amour des jeunes mères qui, pour protéger leurs enfants au sortir des wagons, espéraient tout à coup les sauver en les y laissant. Oublié les SS leur reprochant de les abandonner et les leur ramenant plantés au bout de leurs baïonnettes éventrées. J'ai oublié mon petit cousin Lonek qui n'est pas arrivé vivant à Auschwitz, étouffé sous les corps amassés. J'ai oublié ce prisonnier surnommé le dentiste qui arrachait les dents en or des morts pour en faire des lingots et financer ainsi l'effort de guerre. J'ai oublié les capots qui rentraient dans nos baraquements et commençaient à taper en criant « Aufstehen, debout ». J'ai oublié le chariot de la mort, passant encore entre les blocs chaque matin pour ramasser les cadavres de la nuit. Oublié le bruit mat des corps jetés à terre, dans le sommeil de Flossenbürg, lorsque, serrés les uns contre les autres, 3 ou 4 par palette, nous poussions celui d'entre nous qui venait de mourir, son corps froid ne nous réchauffait plus. J'ai oublié l'orchestre devant la porte du camp qui jouait lorsque nous sortions et rentrions du chantier chaque jour. Oublié qu'il y avait là les musiciens les plus célèbres d'Europe. J'ai oublié toutes les séances de sport, à sautiller sur la place d'appel, bras tendus, jusqu'à ce que tant d'entre nous tombent morts d'épuisement. J'ai oublié qu'ainsi les SS faisaient de la place dans nos baraques pour de nouveaux arrivants. J'ai oublié les dimanches où l'on ne sortait pas travailler et les trouvailles des SS pour nous briser. Oublié comment nous transportions de la terre et du sable d'ici vers là, puis de là vers ici, en une répétition insensée qui n'avait de sens qu'à nous tuer. J'ai oublié tous les dimanches et l'ennui des SS. Oublié comment ils posaient des bouteilles sur la tête des prisonniers et s'entraînaient à tirer, s'amusaient parfois à rater leur cible. J'ai oublié ce qu'on appelait les musulmans, leurs corps sans plus de chair ni de voix, leurs yeux dévorés de silence et de nuit qui, à la mort, avaient déjà dit oui. J'ai oublié les détenus travaillant dans les fours crématoires qui sortaient les cadavres des chambres à gaz pour les jeter au feu. Oublié ce qu'on m'a raconté. Cet homme qui, en ouvrant la porte, avait reconnu son enfant. J'ai oublié les fours crématoires de Flossenbürg et le premier baraquement de quarantaine où j'ai vécu, juste à côté. J'ai oublié qu'il n'y avait aucune limite. J'ai oublié la carrière de granit de Flossenbürg où les prisonniers s'exténuaient au travail, oublié qu'il n'y avait pas de chambre à gaz à Flossenbürg, où pourtant les fours crématoires fonctionnaient jour et nuit. J'ai oublié les cérémonies de pendaison avec orchestre. J'ai oublié Janusz Korczak, médecin pédiatre de Pologne, juif, volontairement parti avec les 200 enfants de son orphelinat déportés à Treblinka, où il fut assassiné avec eux. Mais je me souviens que mon ami Amos Kenan, après la guerre, a écrit un poème où il raconte ceci. Bien que Dieu ne se soit pas montré en public depuis 3500 ans, il semblerait qu'il ait été aperçu dans les bras de Janusz Korczak, allant à Treblinka. J'ai oublié ceux qui se jetaient contre les barbelés électrifiés en arrivant, eux qui avaient encore la force de se suicider quand nous étions déjà trop affaiblis pour même l'imaginer. J'ai oublié les hommes pendus au crochet de boucher à Flossenbürg et combien leur mort était douloureuse et lente, si lente. J'ai oublié la révolte du ghetto de Varsovie, oublié comment quelques hommes avec leur drapeau de courage et armés de trois fois rien ont tenu tête tout un mois à la machine de guerre allemande. Oublié la destruction totale du ghetto et que les quelques survivants ont fui par les égouts. J'ai oublié 1944 et les 450 000 juifs hongrois gazés en 6 semaines à Auschwitz, oublié qu'il n'y avait pas assez de place dans les chambres à gaz. J'ai oublié tout ce que mes proches m'ont raconté et tout ce que j'ai vécu. Il n'y a plus de différence, tout est confondu. J'ai oublié les marches de la mort, celles de Dresde à Leitmeritz au printemps 1945, les prisonniers au bout de leur force que l'on traînait corde au cou avant de les jeter étranglés sur le bas-côté. Sans doute étions-nous trop proches des troupes alliées et fallait-il les tuer sans se faire repérer. J'ai oublié celles d'avant, au cours desquelles ils étaient fusillés et laissés sur place sans que l'on cesse d'avancer. Oublié que la neige serait leur sépulture unique. J'ai oublié notre transfert en plein hiver de Grossrosen à Flossenbürg, dans des wagons ouverts au vent glacé et les prisonniers morts gelés à l'arrivée. J'ai oublié le tas de cadavres où mon corps a été jeté parmi les morts à l'hôpital de Theresienstadt. J'ai oublié ma mort. Oublié. 7 ans d'oubli. Pour survivre, la nature m'a donné l'oubli. J'ai tout oublié, mais mon corps s'est souvenu. Parce qu'il y a eu la terre, l'amour, l'éros, l'art, la mémoire, la vie. Et j'ai tout dessiné et sculpté. Qui a connu les camps de concentration ne s'en libère jamais. Ils sont là, chaque nuit. Et avec eux chaque matin, ceux qui sont morts assassinés à mes côtés, témoins d'une ténèbre absolue et informe à partir de laquelle je sculpte l'espérance. N'était-ce pas celle que portait déjà mon grand-père assis dans ce précipitant à l'eau au bord de chez lui, dans la Pologne de mon enfance pour accueillir à la synagogue le Messie, au cas où il se serait présenté dans la nuit. Je crois en l'homme. J'ai survécu à 9 camps de concentration, 2 marches de la mort, et je crois encore en la possibilité de l'homme. Car là où cela ne se pouvait, où cela n'aurait pas dû, des hommes ont conservé leur dignité et leur intégrité. Là où toute humanité devait être détruite, des hommes n'ont pas renoncé à leur visage divin. Alors je sors de chez moi, en hâtant le pas vers l'atelier chaque matin. Je prends mon burin et mon marteau. Je danse avec la pierre, et ensemble, elle et moi, nous inventons une langue de lumière pour dire ce que l'on ne peut taire. Et ainsi, je continue d'être libre. Tu continues d'être libre encore aujourd'hui. On va un peu maintenant évoquer comment, en tout cas j'aimerais que tu évoques comment tu... Donc il y a tout le... Après la guerre, tu pars en Israël. Tu... Vas-y.
Et... Je suis dans l'hôpital militaire russe. Et les lits occupés à droite, à gauche, devant, derrière, ce sont des blessés soldats. Les infirmières sont des soldats. Et les chefs des hôpitaux militaires, ils n'arrêtent pas de venir voir comment je vais. Et à un moment, je vais beaucoup mieux. Je suis vivant. Je bouge. Et mon corps est tout à fait vivant. Là-dessus, un des jours, Magnick Zellinger,
un parent
qui à un certain moment m'a protégé, il m'a rendu la vie, et même que la première marche de la mort, où j'étais parmi ceux qui n'ont pas reçu le morceau de pain pour la route, il m'a partagé avec moi. Et je suis arrivé ensuite dans notre marche de la mort de Dresden à Leitmeritz. Il était toujours avec moi. Et donc, il m'a... Et puis, il vient à l'hôpital.
Le jour de ton anniversaire.
Oui. Et il me dit... Et j'ai préparé des papiers et nous allons partir à Prague. Et je n'ai pas prévenu mon docteur, mon sauveur. Et c'est un de mes regrets extraordinaires que je n'ai pas pu... le remercier. Mais entre-temps, là maintenant, j'ai le contact avec une Russe qui s'occupe pour trouver les noms de mon sauveur. Et j'ai déjà les noms. Et probablement, c'est un médecin qui a combattu à Stalingrad et qui était responsable des hôpitaux de toute la guerre jusqu'à Térésine. Il s'appelle Lev Gernstein. Lev Gernstein. Le commandant Lev Gernstein. Probablement, et j'attends encore qu'il m'envoie la photo pour que je sois
sûr.
Que je sois vraiment sûr. C'est extraordinaire. Et je me demande si ce médecin qui avait pas le droit de mettre un déporté parmi les soldats blessés, est-ce qu'il n'était pas la victime des blouses blanches de Staline? Et lui, qui avait les ordres les plus importants de l'armée soviétique, ça ne les sauvait peut-être pas. Voilà. Et donc, avec Magnick, on est arrivé à Prague. Prague, c'est magnifique, mois de juin, extraordinaire, c'est le printemps. C'est la liberté. Je me promène partout. Je passe par les ponts où il y a plein de sculptures. Et je m'arrête devant une sculpture où on voit Jésus. Et puis écrit en hébreu, Kadosh, Kadosh, Eli, Lama Azaftani. Et puis, je me promène dans les, dans les, dans les tramways. Les tramways et des gens. Et devant moi, il y a une femme avec un enfant. Et je suis hypnotisé par un enfant pendant trois ans et demi. J'ai pas vu un enfant.
Un enfant.
Et là, la femme descend avec l'enfant. Moi, je descends. Je suis attiré. Je la suis. La femme commence à aller vite. Je précipite, mais pas aussi.
Tu la suis.
Je la suis.
À son rythme.
Et puis, elle commence à courir. Et je me suis rendu compte que je suis l'épouvantail.
C'est toi qui fait peur.
Et c'est la première fois pendant pendant 4 ans que j'éclate en pleurant.
Alors après, tu vas aller dans le sud de la France. Enfin, il y a tout.
Après, on est arrivé en Allemagne, et puis je suis dans un endroit, Landsberg, où il y a un endroit de déplacés.
Tu vas retrouver ta sœur.
Et je m'engage dans un mouvement de jeunesse qui est drôle, la liberté. Drôle, la liberté. Et à un certain moment, on s'approche des frontières hollandaises. Et en Hollande, il y a la brigade juive qui combattait avec les Anglais, comme la brigade juive qui était de Palestine, d'Israël. Donc, ils nous font traverser la frontière. C'est deux soldats qui étaient couchés sur les barbelés, et nous traversions la frontière sur leur corps.
Et vous allez rejoindre Marseille ?
Attends.
Ah oui.
On nous fait traverser, on met des fausses camions militaires anglaises. Et on nous amène en Belgique, là où nous ressemblons pour certains temps. Et là, on apprend un peu de bourreau pendant peut-être un mois. Et ensuite, il y a des camions de l'armée anglaise, c'est probable clandestin qui était conduite par les soldats de la brigade juive. Il y avait le mouvement de Haganah dans l'armée qui s'est organisé, et on nous fait traverser la France dans les camions, et sous prétexte qu'ils nous sont des prisonniers allemands. Alors on traverse toute la France jusqu'à Marseille, dans un camp de Marseille.
Où vous embarquez ?
Et oui, on est arrivé là, on s'est rassemblé, et entre-temps, la Haganah a préparé un petit bateau qui, à l'époque, s'appelait Asia, mais en route, est devenu Tel Hai. Et puis on embarquait 730 par personne. Et pendant 2 semaines,
vous avez une tempête ?
Il y avait des tempêtes et puis les marins qui étaient turcs, quand un avion de reconnaissance anglais est passé au-dessus de nous, ils se révoltaient. Alors ils étaient obligés par quelques gens de la Ghana, notamment les radios qui étaient, après devenir mon ami, très, très solide. Il a pris les mécaniciens, et il lui fait regarder des dauphins derrière, et l'autre a compris qu'il était obligé de redescendre dans la machine et travailler. Donc, en s'approchant
des
côtes d'Israël, nous voyons doucement les monts Carmel qui apparaissaient. C'était extraordinaire. Mais, entre-temps, un destroyer anglais s'approchait et des soldats anglais qui débarquaient sur notre bateau, ils nous ont amenés jusqu'à Haïfa, et là ils nous ont pris dans un camp d'athlètes. On était enfermés dans un camp d'athlètes. On est resté deux semaines et mon groupe à moi, on nous a proposé d'aller dans différents kibbutz, et nous avons choisi les kibbutz qui étaient, on nous disait ça, c'était le plus avant-garde. C'était au bord de la mer Morte, c'était le kibbutz Beit Arava, où la terre avait 17% de sel. Et nous lavions la terre. Depuis la destruction biblique de Sodome et Gomorrhe, rien n'est poussé.
Mais avec vous,
et puis nous lavions la terre, et c'est devenu une terre fertile extraordinaire. Nous fournissons des tomates en plein hiver. À l'époque, il n'y avait pas de serre à Jérusalem, des fleurs à Jérusalem.
Vous cultiviez les fleurs qui étaient envoyées à Jérusalem.
Et puis nous creusons des piscines où il y avait des carpes que les Juifs ont besoin pour vendredi manger des carpes. Des gefilte fish, on y arrivait vivante à Jérusalem pour le jeudi soir.
Et ce n'est pas dans ce kibbutz que Ruti t'a trouvé.
Non, pas encore.
C'est là, pas encore dans celui-là, c'est
non,
dans l'autre.
Là,
il y a eu la guerre entre les deux.
Non, dans ce kibbutz, nous avons ici. On était venus pour construire le pays et se reconstruire nous-mêmes. Nous étions là pour apprendre de nous défendre, et puis nous étions là pour changer le peuple juif, de le rendre créateur, paysans, ouvriers, et nous voulons changer le monde. Nous étions des socialistes.
Et là, tu n'avais pas de mémoire de tout ce qui s'est passé.
Tout ça, je n'avais pas de mémoire. Mais j'ai appris d'une vitesse extraordinaire que c'était une tabula rasa, l'hébreu, l'histoire, les mathématiques.
Et la poésie, tu découvres.
Et puis, je rencontrais une femme exceptionnelle, une chienne, qui m'a initié à la poésie. Et
Et après, tu...
Et puis même à cette époque, j'ai eu même le temps de me préparer pour le concours de natation nationale. Je nageais dans le Jourdain contre courant. D'ailleurs, j'ai toujours nagé contre courant,
à même dans le vide. Ouais.
Et puis là-dessus, il y avait la déclaration
de guerre.
La déclaration de guerre d'Israël et sept pays arabes envoyaient des soldats pour rejeter dans la mer. Et nous avons combattu. Notre kibbutz, qui était entouré, qui était unique, et était pris par les Arabes et détruit. Et nous vous reculions au sud de la mer Morte, dans Saddam, et j'ai combattu à Saddam. Et j'ai survécu toutes les possibilités d'anéantissement personnel, et même là, dans le combat que nous avions mené en attaquant la forteresse de Safia de l'autre côté, j'étais l'artillerie de cet homme. Ça veut dire qu'on avait un outil qui s'appelait Piat. Fia Piat. Et quand on a reçu un ordre de tirer, le premier Piat a éclaté avec celui qui tirait.
Tu t'es retrouvé seul.
Et je me suis trouvé seul avec toute munition. Et tous les feux étaient dirigés contre moi. Il y avait des morts, il y avait des blessés. Et moi, pas une blessure, pas une égratignure. J'ai envoyé une soixantaine de missiles, de roquettes. Et puis en plus, je me suis demandé toujours après comment ça se fait que tout le monde est mort, toute notre ville, tout mon père, ma famille, des centaines de personnes, et celle, moi je suis là, vivant, tout le monde était formidable, bien, et peut-être moi, je traînais une sorte de culpabilité idiote qui n'avait aucun fondement. Comment ça se fait que je suis vivant? J'étais coupable de vivre. Jusqu'au moment où il y avait le concours international pour le mémorial de Drancy. Alors, je me suis dit, peut-être pour ça. Et j'ai préparé le concours. Et chaque fois, faisant la maquette, c'était extraordinaire. Que chaque fois que je créais une forme, je me reculais, il me demandait qu'est-ce qu'elle signifie. Et elle avait une signification. Et puis, en plus, je me suis dit, peut-être pour ça.
Tu as survécu pour
j'étais
ça.
J'étais presque sûr. Il y avait quand même 70 candidats internationaux. Il y avait 3 degrés. Et je me suis dit, et puis j'ai senti que c'est moi qui devais le faire. Et notamment, j'ai reçu le premier prix et puis réalisé les mémoires de Drancy. Après, j'ai eu encore quelques quelques privilèges de pouvoir faire le mémorial Requiem pour les Juifs en Allemagne. Et puis...
À Luxembourg aussi.
Luxembourg, c'est tout à fait récent, le Luxembourg, le mémorial Kaddish pour les Juifs. Et puis à Jérusalem, c'est le, à Yad Vashem, j'ai eu la privilège de pouvoir faire le mémorial pour les Justes des nations inconnues, et qui est placé devant l'allée des Justes.
Et est-ce que tu veux bien revenir sur le... Parce que c'est le moment où, en fait, à un moment donné, tu es donc dans ce second kibboutz, et il y a une jeune lycéenne qui vient...
c'est déjà beaucoup plus.
voilà, pour comment, finalement, la sculpture...
Oui, donc... C'est... Nous terminons la guerre, il y a un armistice, et nous allons construire un autre kibbutz en Galilée, Kabri. Kabri, un jeune kibbutz, où nous montons sur une talus et on met des... On construit les baraques et puis les logements et puis des tentes. Et entre-temps, il y avait les lycées de Haïfa, qui, l'école de Réali, qui envoyait de temps en temps une classe pour aider les jeunes kibbutz. Et une fois, parmi les jeunes élèves, parmi les élèves, arrive Ruti, Céline, Ruti Shapirovski. Et nous avons sympathisé. Et de temps en temps, je lui rends visite à Haïfa. Et là, on se promène. À l'époque, il y avait très peu de maisons dans cette ville qui est maintenant, dans les montagnes qui est maintenant surpeuplée. On s'est promené dans les bois qui avaient plein de pins. Et j'emprunte un petit canif de son porte-clé, et je lui fabrique un tout petit bonhomme en écorce. Et elle trouve ça tellement beau, j'arrive, et je retourne dans mon kibbutz, je prends un tronc d'arbre, et je prends un miroir, et je rentre dans la menuiserie du kibbutz avec les outils du kibbutz, et je lui fais mon autoportrait. Et j'ai commencé à faire la sculpture pour plaire à une jeune fille. Et puis, je ne me suis plus arrêté.
Et ça a marché, en plus.
Tu
lui as...
Je lui ai apporté ma tête, et elle a accepté.
Et tu l'as gardé?
Oui.
Ah oui.
Bon, voilà l'amour. Et pas seulement c'est l'amour, elle est devenue l'amour de ma vie.
Ta femme et...
Ma femme, mère de mes enfants. Voilà. Oui. Et Rami, c'est mon fils. Et le fils de mon premier mariage, parce que je n'avais qu'un.
Et en fait, ce qui est quand même cette singularité chez toi, c'est comment l'amour et l'art se sont tissés, et comment... donc, parce que effectivement, tu vas te mettre à sculpter, tu vas passer un concours en Israël, que tu gagnes, Et puis, tu as un ami.
Oui, 2 mois après, je me présente pour le concours national Américain-Israël, prix Norman. Et puis, je les gagne. Et en plus, il y avait un ami à moi qui, donc, au kibbutz qui revenait de Paris, qui était au Beaux-Arts. Et il me parle de qui, au Beaux-Arts, il y a le professeur de sculpture, le meilleur, qui c'est Marcel Gimond. Alors,
il faut que tu ailles à Paris.
Il m'a dit que si tu vas à Paris, si tu as la chance qu'il t'accepte dans son atelier, ce sera formidable. J'y arrivais et sur le bateau, on a pris Routy et moi, on a pris le bateau et fin 55, et on est arrivé à Marseille déjà au mois de janvier. Et sur le bateau, il y avait quelqu'un qui est membre du kibbutz qui est francophone. Il est venu avec moi chez Marcel Gimond. Et j'avais aussi une lettre de recommandation d'un sculpteur israélien qui émigrait de Paris. Et Marcel Gimond m'a accepté dans son atelier. Et voilà.
Et tu t'es mis à sculpter et ça n'a plus jamais cessé.
À l'école, je faisais exactement ce qu'il
demandait.
C'est la base que je n'avais pas. Mais jamais je n'étais pas satisfait de ça parce que j'ai déjà goûté la taille directe des bois et de la pierre. D'ailleurs, la sculpture qui arrive les prix Norman America Israël, c'est une pierre, une calcaire que je trouvais dans les champs. Et qui se fait une base avec un veau. Donc, ici à Paris, nous étions vraiment très très pauvres. Et, bon, il y avait un moment où il y avait une question de faim. On avait faim, et surtout Routy.
Et donc, du coup, tu récupères des morceaux.
Alors, il y avait autour de Paris les zones où il y avait des décharges publiques et il y avait là-bas des morceaux de granit. Donc, j'ai commencé à travailler le granit et il est très, très dur, mais cette pierre qui devient mes prédilections de sculpture monumentale, elle prend la lumière de façon exceptionnelle. Et peut-être aussi, et je me suis attaché à cette pierre, parce qu'elle est extrêmement, extrêmement dure et qui contraste totalement avec la fragilité de l'homme. Donc, voilà.
Tu as,
et je suis ouais. là. Je suis là.
Et tu es là.
Et je suis là. Et ma dernière réalisation monumentale date d'il y a 2 ans, quand j'avais 90 ans, après 2 ans de travail dans la carrière, de taille dans la carrière. Et j'ai inauguré ce monument, c'est à Luxembourg, et à côté de la cathédrale. Et j'ai encore un espoir, plutôt un rêve.
Un désir.
De pouvoir encore réaliser une sculpture monumentale, mais c'est dépend pas de moi, mais je rêve.
C'est important.
Maintenant, je mets le masque parce qu'on me dit qu'il faut absolument que je me protège.
D'accord.
Bon. Et il paraît que je suis très fragile.
Quand même, il y a une chose qui est importante, il me semble, c'est comment, par la sculpture, justement, par l'art, dans cette conjugaison singulière où l'amour et l'art arrivent d'une certaine manière en même temps dans ta vie, comment la mémoire va revenir à ce moment-là pour toi? Et ça, c'est pas rien, pas anodin, en fait.
Et ça, au même temps ma vie, c'est bien normal. Je prends une vie normale, je me permets d'être amoureux profondément et l'occasion se présente. Et en même temps, la mémoire commence à revenir. Ça commence par les... par les cauchemars, et puis doucement, des images. Et encore avec Ruti, elle voulait savoir comment c'était, qui je suis. Roger raconte que j'étais dans les camps de concentration, que mes parents étaient. Et puis, je ne sais pas le nom des camps, dans lequel camp j'étais. Et donc, il y avait à Haïfa Dov Rosner qui était avec moi dans quelques camps. Et Ruti et moi, on est allés chez Dov et il me racontait ma vie.
Lui, il se souvenait au contraire.
Lui, il avait une mémoire exceptionnelle. Il avait même les mémoires des dates, à quelle date on est passé d'un camp à l'autre. Exceptionnel. J'espère qu'il est encore vivant. Il était dans sa maison de retraite.
Et aussi, tu dis à un moment donné que, parce qu'il me semble que tout ça est effectivement lié, l'art et l'amour, tu dis à un moment donné que la sculpture est un trop-plein d'amour.
Et pardon ?
Tu dis à un moment donné que la sculpture est un trop-plein d'amour. En fait, que c'est comme si ça avait été une sorte de...
Oui, c'est une... La sculpture, je sculpte comme... C'est un acte d'amour. Sculpter, c'est un acte d'amour. La création, c'est un acte d'amour. Et qui dit création, dit amour. Et d'ailleurs, dans mon exposition récente que j'avais... Et mois de février à Flossenbürg, parce que Flossenbürg est maintenant les 4-7 concentrations, mémoire de concentration
Flossenbürg est devenu
lieu de mémoire. Et quand
ils ont exposé ton travail
là-bas, elle était fondue comme plusieurs camps, comme Grossrosen, comme Mauthausen, sur la carrière d'un granit. Et je me suis amené avec une exposition de granit.
En février dernier.
Maintenant, mois de février, ils m'ont demandé de lui. Donc, je leur expliquais que Flossenbürg, où il n'y avait pas de chambre à gaz, mais il y avait une carrière. Et puis, le crématoire travaillait jour et nuit. Et j'ai dit que la différence entre le granit de l'époque de Flossenbürg, qui c'est un granit de la haine, la haine des crimes et l'exposition qui j'amène Granite, c'est le Granite de la création. Dit création, dit la lumière. Dit création, dit amour. Donc, et puis aussi, voilà.
Et puis aussi, voilà. Et peut-être pour conclure, ou, tu dis finalement que, voilà, il faut faire attention, il faut surveiller l'homme.
L'homme est à surveiller. Et surtout, il faut faire attention au groupe. Un groupe, l'homme dans un groupe, et il ne réfléchit pas, il n'y sent pas. Il fait partie d'un groupe. Le groupe n'a ni cœur, ni cerveau. Mm. Et il faut faire très attention et de ne pas se laisser confisquer le cerveau par un groupe. Il faut chacun être vigilant personnellement de faire travailler son cerveau et son cœur. Voilà, attention au groupe.
Et l'art, justement, tu dis, c'est une façon de pouvoir.
L'art ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas en lui. Chaque personne a en lui profondément des choses exceptionnellement spirituelles, exceptionnellement et nobles. Et l'art est peut-être là pour lui réveiller ça. C'est-à-dire, l'art, c'est un petit marteau et qui, quand quelqu'un vient devant l'art, reçoit un petit coup, réveille grâce à l'art, mais la musique est personnelle de chacun et de sa richesse intérieure.
Merci, Shlomo. Merci.